Je tiendrai bon à mon poste de garde, je resterai debout sur les retranchements, je guetterai pour voir ce qu'il dira contre moi et ce que je répondrai au rappel à l'ordre. Le Seigneur m'a répondu, il m'a dit, écris une vision, donne-en explication sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est encore une vision concernant l'échéance. Elle aspire à sa fin, elle ne mentira pas. Si elle paraît tarder, attends-la, car elle viendra à coup sûr sans différer. Le voici plein d'orgueil, il ignore la droiture, mais un juste vit par sa fidélité. Voilà, donc c'est le verset d'Habacuc qui est très célèbre, le verset 4, par lequel j'ai fini cette lecture, verset 4 du chapitre 2 du prophète Habacuc, que vous retrouvez dans l'épître aux Romains sous la formule « Le juste vivra par la foi », vous voyez, par la fidélité. Voilà, donc je trouve que c'est pour ce culte une entrée qui me semble tout à fait intéressante, puisque vous savez qu'aujourd'hui c'est un culte qui est marqué par l'Assemblée Générale de l'Entraide, hein, du diaconat, et il me semble que dans les moments difficiles que nous vivons avec la montée de la pauvreté dans le monde, il faut vraiment avoir une confiance en Dieu pour pouvoir se lancer sans être trop désespéré, évidemment. Hein, on peut se lancer dans la diaconie par idéal, agnostique, athée, républicain, que sais-je encore. Mais quand on voit la misère et les échecs que l'on doit vivre, eh bien, il faut vraiment avoir la foi pour pouvoir continuer. C'est ce que je ressens fortement. Et je pense que ce verset d'Habacuc, qui est repris par l'apôtre Paul et par beaucoup de protestants, puisqu'il a été commenté et recommenté par tous les grands-pères de la Réforme, le dire est un verset extrêmement important. Le juste vivra par la foi. Et incontestablement, je crois que c'est la foi qui nous fait vivre les uns et les autres. Alors, bienvenue pour ce moment de culte à toutes et à tous. J'espère que vous avez la foi, un petit peu, que vous en vivez, quelle que soit votre approche, évidemment, qui doit être extrêmement variée, hein, puisque nous sommes quelques-uns ici, et je pense que chacune et chacun d'entre nous a sa manière de vivre cette confiance en Dieu, de manière peut-être proche, peut-être plus lointaine, enfin peu importe. Quelle que soit votre appartenance, soyez les bienvenus pour ce moment de culte. J'espère que vous avez tous les registres de chants, le bleu qui est le registre des chants spontanés. Donc vous pouvez aller à la page 8 tout de suite, hein, puisqu'on change de période. Vous savez que nous sommes en ce moment dans le début du carême, comme disent les catholiques. Donc on est dans une période où on se prépare à aller tout doucement vers Pâques, évidemment. Et puis dans les registres marrons, vous avez les chants qui sont commandés. Et donc je vous invite à prendre tout de suite pour chanter la grâce et la foi. Je vous invite à prendre le psaume 116, les trois premières strophes de ce psaume 116.
Cette terre où tu veux que
Il y a dans l'Écriture deux grandes paroles qui portent en elles tout l'enseignement de l'Écriture, de la Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est la première de ces paroles et la deuxième lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Amen. Père, nous voici réunis devant toi et nous voudrions te remercier pour ce moment de culte, pour la parole d'Habacuc qui vient de loin et qui résonne jusqu'à aujourd'hui et qui nous dit que l'essentiel, c'est d'avoir confiance en toi et de vivre dans la fidélité de ta parole. Père, ces paroles que nous avons entendues, ces deux grands commandements, comme nous le disons, nous les savons par cœur. Depuis notre enfance, nous les avons entendus et portés. Et pourtant, souvent nous avons bien du mal à en vivre. À en vivre dans l'esprit, dans la fidélité, dans la joie, dans la reconnaissance. Bien souvent, Père, nous t'éloignons de notre horizon. Bien souvent, nous fermons nos oreilles pour ne pas entendre ta parole. Où nous nous taisons pour ne pas la partager. Pardonne-nous lorsque nous nous éloignons de toi, ou lorsque mettons entre toi et nous un mur infranchissable, un mur d'incommunication, d'incompréhension. Mais voilà aussi que autour de nous, il y a tant et tant de choses à dire, à vivre, à faire et à partager, tant et tant de gens à rencontrer. Pardonne-nous lorsque nous sommes trop repliés sur nous-mêmes ou égoïstes, lorsque nous ne pensons qu'à nous, alors que tout près, à quelques mètres, il y a quelqu'un qui souffre de solitude, de désespoir. Oui, Père, donne-nous la force de vivre ta parole dans le partage. Donne-nous la force de rompre les barrières qui nous enferment pour aller vers le monde. Nous avons aussi des moments de lumière dans notre vie, des moments de joie et de partage, des moments de fidélité qui sont là dans nos mémoires et qui brûlent en nous comme un feu réconfortant. Nous voudrions aussi te remettre ces moments de joie et de fidélité afin que toute notre vie, les moments d'ombre et de lumière, les moments d'espoir et de désespoir soient là, afin que tu t'en saisisses. Pour que nous puissions repartir avec de toi une parole de vie. Merci Père d'entendre notre prière, de te recevoir. Merci de nous recevoir aussi, tels que nous sommes et tels que nous présentons à toi maintenant dans le silence.
Thank you.
Nous sommes tous face à Dieu, peut-être avec des problèmes lourds que nous déposons à ses pieds, peut-être aussi avec des choses qui nous semblent moins graves. Nous sommes aussi face à Dieu avec des moments de joie que nous remettons à Dieu dans nos prières comme nous l'avons fait. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu nous reçoit tel que nous sommes, avec nos questions et nos certitudes, nos réussites et nos échecs. Il nous reçoit pour que nous puissions vivre selon sa volonté, c'est-à-dire dans la joie et dans l'espérance. C'est ce que nous appelons la grâce, finalement. Tout le message chrétien est dans cette phrase. Dieu a tellement aimé le monde qu'il s'est donné afin que le monde puisse vivre, qu'il ne soit pas dans le désespoir, finalement. Souvent, l'horizon nous semble bouché et la nuit nous semble épaisse. Et pourtant, Dieu est toujours présent, il est toujours lumière pour nous éclairer et nous permettre d'aller plus loin. Alors, des signes de la grâce, nous en avons certainement les uns les autres, que ce soit dans une rencontre, que ce soit au cours d'un groupe, que sais-je encore, au cours d'un culte. Des signes de grâce, on en a lorsqu'on se retrouve un dimanche matin, par exemple, et qu'on a plaisir de se retrouver les uns les autres. Moi, si je me tiens dans la rue, ce qui frappe beaucoup de gens, de voir le pasteur dans la rue le dimanche matin, eh bien la grâce, c'est quand je vous vois arriver à l'autre bout de la rue. Je lui dis, tiens, il arrive ou elle arrive, ils sont là. Eh bien, ça prouve au moins qu'ils sont relativement en bonne santé, évidemment qu'ils ont pu venir, etc., et qu'ils viennent pour partager quelque chose. Ben, c'est un moment de grâce, tout simplement. Et c'est, le culte est véritablement un de ces temps. Quand les montagnes s'effondreraient, dit le Seigneur, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, mon alliance de paix ne sera pas rompue. Je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve toute ma miséricorde. Et donc je vous invite à dire à Dieu toute notre reconnaissance. Dans la reconnaissance, dans l'espérance et la joie, je vous invite à partager notre confession de foi. Je crois en Dieu, notre Père, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, il a souffert, il est mort et il nous pardonne. Il est la vie, la lumière du monde, son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix aux hommes de bonne volonté. L'Esprit de Dieu crée et recrée le monde, le dynamise, le conduit vers le royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Père, tu nous as reçus en ces lieux, tu nous as annoncé ton message d'amour par l'annonce de la grâce et du pardon, et tu nous laisses maintenant de quoi vivre ce message d'amour et d'espérance par le témoignage de l'Écriture. Ouvrons nos cœurs à cette Écriture, Père, pour que nous puissions en saisir l'essentiel du message, un message d'espérance. Amen. Voilà, en ce jour, vous ne serez pas trop surpris d'entendre les deux passages que je vais vous lire. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 6, des versets 1 à 7, et au chapitre 11, des versets 27 à 30. En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et ils dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service de la parole. » Cette proposition fut agréée par toute l'assemblée. On choisit Étienne, un homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. On les présenta aux apôtres, on pria, on leur imposa les mains. La parole de Dieu croissait et le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Une multitude de prêtres obéissait à la foi. Et puis donc, un peu plus loin, au chapitre 11. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, appelé Agabus, fit alors savoir, éclairé par l'Esprit, qu'une grande famine allait régner dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Et les disciples décidèrent alors qu'ils enverraient, selon les ressources de chacun, une contribution au service des frères qui habitaient en Judée. Ce qui fut fait, l'envoi adressé aux anciens fut confié aux mains de Barnabas et de Saül. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à prendre le cantique 249 avant de revenir sur ces textes.
Jusqu'au couchant,
savez que dans nos églises, souvent nous insistons sur le problème du mal, des hommes qui sont pécheurs, vous savez. Et malheureusement, nous passons parfois à côté de cette idée que les hommes sont quand même pas si mal que ça malgré tout. Ils ne sont pas parfaits, évidemment. Et je vous en veux à preuve ces découvertes qui ont été faites par les préhistoriens de restes humains, qui montrent que ces restes humains sont des restes de personnes qui sont infirmes, voyez, qui ont des infirmités graves et qui pourtant sont relativement âgées. J'aime bien relativement parce que l'espérance de vie dans la préhistoire, c'est une trentaine d'années. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ces hommes dont on a les restes, qui normalement n'auraient pas pu vivre tout seuls, ont vécu, ont survécu parce que d'autres hommes les ont pris en charge. Voyez. Et je trouve c'est intéressant d'avoir comme ça des restes de solidarité qui remontent très très loin dans le temps. Les hommes, depuis donc très très longtemps, ont le souci de leur prochain, finalement. Et grâce au ciel, on n'a pas attendu la Bible pour avoir ce souci-là, évidemment. Et lorsqu'on avance un petit peu dans l'histoire de l'humanité, on voit que dans l'Antiquité, évidemment, ces valeurs, elles sont là. La prise en charge des plus démunis est quelque chose d'extrêmement important. Vous l'avez dans le code d'Hammurabi, par exemple, vous savez, ce code de loi dont, d'ailleurs, la Bible est sans doute un petit peu inspirée, vraisemblablement, où il est marqué qu'il faut prendre en charge, là aussi, les plus démunis, évidemment. Et évidemment, cela malgré toutes les violences qui peuvent avoir lieu, les guerres, l'esclavage, que sais-je encore, et toutes sortes d'injustices, évidemment. Les hommes sont ainsi faits que, évidemment, ils ont cette double face. Ils ont le problème du mal en eux, c'est vrai, nous disons assez à propos du péché, mais aussi, ils ont cet aspect positif, finalement, cet aspect de la prise en charge de l'autre. Le bien est inscrit dans l'homme aussi bien que le mal. On va se repencher sur la guerre de 14-18 dans quelques mois. Vous savez, à partir du mois d'août prochain, d'août 14, si je puis dire, on va revenir sur cette guerre terrible, épouvantable. Mais vous verrez très vraisemblablement que les historiens vont trouver dans les tranchées des gestes de solidarité, des gestes d'affection et d'amour, et même entre Français et Allemands. Il y a eu un film il y a quelques années là, sur un Noël qui avait été fêté entre les lignes, entre les tranchées, entre les Français et les Allemands, de telle sorte que ces soldats qui avaient fêté Noël ensemble dans cette horreur de 14-18 ne pouvaient plus se combattre. Après, c'est une des raisons pour laquelle on faisait tourner les régiments. C'est que ainsi, les soldats trouvaient en face d'eux des ennemis avec lesquels ils n'avaient pas fêté Noël, avec lesquels ils n'avaient pas fraternisé. Vous voyez, le bien et le mal sont imbriqués les uns dans les autres, et sans doute que dans nos vies nous sommes ainsi un des lieux où le bien et le mal sont en confrontation. Alors la Bible, elle aussi, elle parle de la solidarité. Elle, évidemment, à la suite de ce que je viens de dire, elle institue même la solidarité. Si vous lisez la Torah, le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, et en particulier l'Exode et le Lévitique, vous verrez, surtout le Lévitique, vous verrez que, effectivement, le Deutéronome aussi, vous verrez effectivement que dans la loi, dans les préceptes de la loi, les personnes les plus en danger de la communauté sont pointées du doigt et sont prises en charge. Les prophètes ont toujours été attentifs à cela. C'est-à-dire, et très vite, ces hommes se sont dit que Dieu, le Dieu de leur Dieu à eux, ce Dieu unique dont ils sentaient la présence dans l'histoire et à leur côté, ces prophètes ont bien réalisé que ce Dieu demandait évidemment une justice sociale. Et à l'inverse, évidemment, l'injustice va être vue par ces mêmes prophètes comme un manquement extrêmement grave à la loi, à la parole de Dieu, et ils vont voir dans l'injustice un signe de paganisme. Si vous relisez Ésaïe, Michée, Amos, tous ces prophètes qui sont là, ils sont des gens qui montent au créneau de manière très forte, très violente, ou Élie, en plus la saga d'Élie et d'Élisée dans le livre des Rois, vous verrez que ces prophètes ont une parole très forte, un verbe très haut pour dénoncer précisément les injustices, les injustices sociales dont sont coupables les dirigeants d'Israël, qu'ils soient du nord ou qu'ils soient du sud, évidemment. Et pour eux, c'est véritablement un signe de paganisme. On le voit très bien dans le livre des Rois avec le prophète Élie, Akab et Jézabel, la reine et le roi étant des rois païens finalement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le monde a changé, ça va de soi. Difficile de faire des comparaisons un petit peu simplistes, mais il n'empêche que nous sommes quand même confrontés à des égoïsmes formidables, des narcissismes, des manipulations consuméristes aussi, qui sont des dysfonctionnements très très graves. Je suis toujours étonné quand j'écoute les médias ou quand je lis les journaux, de voir les publicités qui continuent vraiment pour susciter chez nous des besoins dont nous n'avons pas besoin, si je puis dire, et des besoins inutiles, finalement. On est quand même un petit peu renversé de voir que nous continuons à vivre comme si les choses étaient toutes simples, à nous habiller comme les choses étaient toutes simples. On dénonce telle ou telle entreprise qui fait travailler les enfants dans l'Extrême-Orient, mais ça ne nous empêche pas de continuer à consommer tranquillement, d'une certaine manière. On est un peu schizo, un peu schizophrène. Dans un compartiment, on va dénoncer, on va dire de quoi, les enfants qui travaillent dans des ateliers à 7-8 ans, dans des grandes entreprises que je n'ai pas noter, que je ne vais pas citer, mais vous en connaissez beaucoup. Je veux dire, voilà, dans ce compartiment-là, on est compartiment justice, bien-pensant, etc. Puis un autre compartiment, on se laisse piéger par la consommation, et voilà, et on continue comme si de rien n'était, évidemment. Dysfonctionnement qui montre que on est possédé finalement par une puissance qui est là, qui est de l'ordre de l'idolâtrie, finalement, ni plus ni moins. Mais évidemment, il y a des choses qui sont extrêmement embêtantes aussi. Et là aussi, nous sommes un petit peu schizophrènes, en ce qui concerne la pollution, par exemple. On est prêt à dénoncer la pollution, évidemment, mais on est moins prêt à agir vraiment en conséquence. On fait des efforts, évidemment. Je pense que parmi vous, vous faites partie de ceux qui font des efforts dans ce domaine, parce que je vous vois souvent et qu'on en parle souvent, etc. Mais il y a des guerres aussi, des guerres auxquelles on s'habitue finalement, des guerres qui sont pour nous tellement lointaines qu'on n'en parle jamais. Mais vous savez qu'au cœur même de l'Afrique noire, à l'heure actuelle, vous avez des guerres qui continuent, sur les frontières du Congo, etc. Enfin bref, ça fait maintenant des années qu'on se bat, mais je vous mets au défi d'écouter un poste de radio ou de télévision, d'ouvrir un journal et de trouver un article sur ces guerres. À la limite, on s'en fout complètement. Je veux dire, c'est le mot qui convient. Je veux dire, ça ne nous concerne pas. Je veux dire, et pourtant, ça continue. Vous voyez, et cette indifférence est quand même extrêmement grave. Parce que, pendant que nous sommes indifférents, il y a des dégâts considérables qui se créent, et des souffrances énormes qui continuent, évidemment, à accabler des populations entières. C'est ainsi, nous sommes comme les gens de l'Ancien Testament, finalement, mais dans nos catégories modernes, les jouets de forces qui nous ballottent, malheureusement, alors que nous sommes capables d'aider nos prochains, nos voisins. Jamais la solidarité n'a été aussi forte qu'aujourd'hui. C'est quelque chose dont on ne s'aperçoit pas non plus. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais jamais il n'y a eu autant de gens engagés dans les associations caritatives, que ce soit pour aider des gens qui sont proches de nous ou pour aider des gens qui sont très loin. Aussi. Et moi, je rencontre très souvent des gens qui me disent je voudrais m'engager pour aller. Ils ont une idée, un projet, voilà. Ainsi, je crois que l'être humain restera toujours l'être humain, malheureusement ou heureusement. Il faut le prendre tel qu'il est. Je crois que c'est très difficile de le changer. Et pourtant, il y a eu cette prédication de Jésus qui est là, il y a 2000 ans, qui nous frappe encore par cet impact, par, je dirais, la manière dont Jésus a conduit son ministère, dans la liberté finalement, dans la liberté de parole, dans la liberté d'action aussi, dans cette liberté de vie dont il va se séparer de sa propre vie finalement, avec toute cette passion dont on parle évidemment beaucoup et dont on va évidemment reparler encore dans 3-4 semaines. C'est-à-dire toute cette passion, cette souffrance qui est là, le pardon extraordinaire qu'il y a sur la croix qui est prononcé, Père, pardonne-leur, hein, finalement, parce que bon, le mal est là, ils sont les jouets de cette idolâtrie, de ces forces obscures. Je veux dire, pardonne-leur, quoi qu'il arrive. Et ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait fantastique qui se passe. La prédication du Nouveau Testament a quelque chose d'extraordinaire. Et les apôtres vont continuer cette prédication de Jésus, peut-être en la radicalisant. Si on lit l'épître de Jacques, vous pouvez la relire, elle est assez courte, hein, mais pour Jacques, s'il n'y a pas d'œuvre sociale, il n'y a pas de foi. Carrément. Alors, vous savez que Luther n'était pas tout à fait d'accord avec Jacques. Et il disait, bon, c'est l'épître de paille. Mais je pense que Luther devait faire attention quand même à l'épître de Jacques, évidemment. Mais il était en plein débat sur la foi avec les catholiques de l'époque, au XVIe siècle. Et donc, il faisait passer les œuvres au deuxième plan. Et pourtant, le protestantisme a été marqué par les œuvres. Si vous allez à Genève et si vous parlez de Calvin, ou entre nous, on voit tout de suite que les réformateurs, dans les ordonnances ecclésiastiques, dans les actions sociales, etc., dans l'hôpital de Plein Palais à Genève, on voit tout de suite qu'ils ont été concernés par le problème de la misère humaine et qu'ils ont essayé de la soulager comme ils pouvaient, à leur manière, évidemment, au XVIe siècle. Ce n'est pas notre manière d'aujourd'hui, évidemment. Mais je crois que l'œuvre sociale, l'engagement auprès des autres, fait corps avec le message que nous entendons. Si nous entendons la grâce, hein, dans notre liturgie, ou dans les prédications des pasteurs ou des prêtres, quels qu'ils soient finalement, si nous entendons cette grâce, il faut quand même le prendre au sérieux. Ça veut dire qu'effectivement, s'il y a cette grâce de Dieu pour le monde et pour les hommes, ça s'adresse à tout le monde et ça s'adresse aussi à celui qui est juste à côté de moi et qui est complètement exclu, déglingué, détruit par l'adversité. Et donc il faut le prendre en charge, et il faut prendre en charge aussi celui qui est à l'autre bout du monde, qu'on ne verra jamais, et dont on n'a pas conscience, mais qui lui aussi dans la souffrance pour d'autres raisons, peut-être des raisons politiques, d'économie mondiale ou que sais-je encore. La transcendance, elle est là, Dieu étant vis-à-vis de nous avec ce message d'amour extraordinaire que Jésus a porté, afin que nous puissions le partager avec les autres. C'est bien beau, mais c'est pas ça, c'est pas toujours facile. C'est bien beau, mais c'est pas toujours facile. En général, on a de la première communauté chrétienne une idée un peu idyllique. Vous savez, c'est les 12 apôtres, ils sont là, ils ont rencontré Jésus directement, enfin bref, voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le texte que je vous ai lu, c'est pas du tout idyllique. Ils ont beau s'appeler Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, toute la bande, hein, mais ça coince. Vous voyez, il y a des récriminations. Il y a les juifs de Palestine, et puis il y a les juifs hellénistes qui sont dans le monde grec, et visiblement, entre eux, ils ne s'entendent pas. C'est peut-être pire qu'entre les protestants et les catholiques. Ça s'engueule ferme, vous voyez, hein, parce que c'est la réalité, finalement. Il y a des enjeux théologiques, il y a des enjeux économiques aussi, sociaux, etc. Et les veuves, qui sont l'exemple type de la personne à prendre en charge, parce qu'elle est menacée dans sa vie, les veuves sont mises à l'écart. Voyez, hein, carrément, dans cette communauté idyllique, celle des apôtres, des grands apôtres, eh bien, il y a des couacs, et des couacs importants, des couacs de taille. Voyez, moi, je trouve que c'est pas mal. Parce que, bon, ils ont, ça doit être le grand Saint-Pierre de l'Église catholique, ou Jean, peu importe. De voir tous ces grands qui ont lancé le christianisme comme ils ont pu, de voir qu'ils dérapent et qu'ils oublient les veuves de leurs frères, finalement. Je dis, ben, finalement, là aussi, l'Église n'est pas parfaite. Les chrétiens ne sont pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits, incontestablement, il faut l'accepter. Je crois qu'il faut l'accepter. Mais il faut combattre aussi. Il faut l'accepter, réfléchir et combattre. Et donc, effectivement, ces apôtres, cette première église, cette première communauté à Jérusalem décident de créer la diaconie. Première institution créée par l'Église. La diaconie. Créée avant l'épiscopat, avant la diaconie, etc. C'est vraiment la diaconie qui est la première institution de l'Église, avec des gens remarquables comme Étienne, qui mourra lapidé dans l'épisode qui suit, celui que je vous ai lu, et Philippe, celui qui baptisera le nuque éthiopien, si ça vous réveille quelques souvenirs dans les Actes des apôtres. Voilà, ils sont là, et ce qui est assez intéressant, c'est que cette diaconie, même si elle est instituée, il y en a certains qui sont réservés pour la prière, la prédication, etc., et puis les autres qui sont réservés pour la diaconie, mais c'est assez curieux, parce que Étienne et Philippe, précisément ces deux-là, vont être apôtres. Ils vont porter la parole, ils vont prêcher. Voyez, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le rôle des apôtres. C'est assez intéressant. Quant à la diaconie elle-même, dans le deuxième texte que je vous ai lu, vous voyez, il y a un prophète Agabus qui est là, et puis il y a des anciens. Tiens, les voilà, les anciens qui arrivent, hein, qui vont se charger de cet acte de diaconie. Ce ne sont pas les diacres qui s'en occupent. C'est intéressant. Moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la première communauté, dans les premières années après la mort de Jésus, un diacre, peut-être presbytéroi, peut-être ancien, peut-être aussi apôtre, un apôtre peut-être diacre, etc. Les rôles ne sont pas très très bien définis. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que si Étienne et Philippe sont diacres, ils sont aussi apôtres, automatiquement. Le témoignage à la diaconie, il est un témoignage de la parole. Et le témoignage de la parole, il est aussi le témoignage de la diaconie. Il passe par la diaconie. Vous voyez, les deux se renvoient. On ne peut pas avoir une diaconie solide s'il n'y a pas une parole derrière. Il ne peut pas y avoir une parole crédible s'il n'y a pas une diaconie. Vous voyez, hein? Et dans nos églises, ces deux actions, l'annonce de la parole, le témoignage et le vécu de la diaconie sont vraiment les deux piliers qui tiennent véritablement l'Église et qui portent véritablement le témoignage. C'est un témoignage d'amour, effectivement. C'est un témoignage que celui de l'entraide. C'est un grand témoignage qui fait que finalement l'Église, dans son ensemble, lorsqu'elle entre dans ses démarches, est un lieu extrêmement vivant. Ce n'est pas simplement un lieu d'intellectuel ou un lieu où on vient chercher le salut puis on repart tranquillement en ayant la certitude réelle ou imaginaire d'être sauvé. Non, c'est vraiment un lieu de vie complet. Aider l'autre, c'est donner du sens à un geste, finalement. Les athées, par idéologie, peuvent très bien aider aussi, ils le font très bien d'ailleurs. Il n'y a pas de problème, on peut le faire par compassion aussi, toute simple. La conscience que l'on a, si on est un être humain un petit peu achevé, si je puis dire, la simple conscience, la dignité, on va aider l'autre, on n'a pas besoin de croire en Dieu comme ça. Et pourtant, il y a dans l'Évangile des choses qui sont tout à fait extraordinaires. Je pense à cette parole de Jésus, hein, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» véritablement. Souvent, lorsqu'on entre dans l'entraide, on voit quelqu'un qui fait la manche, on ne lui pose pas de questions, on lui donne 100 sous, on lui offre un sandwich, en disant « comme ça vous aurez de quoi manger ». C'est peut-être pas du tout ce qu'il veut. Il y en a même certains qui vous disent « j'ai pas du tout envie d'un sandwich ». Ils ont peut-être envie d'autres choses qui sont peut-être un peu moins avouables. D'ailleurs, peut-être un paquet de cigarettes, j'en sais rien, je sais pas, vous voyez, mais peu importe. Vous voyez. On a souvent dans l'entraide cette idée qu'on va apporter quelque chose à quelqu'un comme ça. Alors, vous voyez, lorsque Jésus dit « qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?», il prend d'abord en compte la personne telle qu'elle est avec ses besoins à elle et non pas nos fantasmes à nous. Vous voyez. Et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. Et cette manière de voir l'autre, finalement, de poser l'autre dans son identité, finalement, dans ses besoins, dans ses désirs, ou dans ses non-désirs aussi, après tout, pourquoi pas, je veux dire, c'est important, parce que ça passe d'abord par un dialogue. Pose une question, je te donne la parole à toi, d'abord. Hein, qu'est-ce que tu veux ? Qui es-tu ? Et ainsi de suite. Et c'est une parole qui est là, et qui se pose, qui pose la dignité de l'autre, et c'est l'accueil. Aider, c'est d'abord entendre l'autre. C'est l'accueillir et l'entendre. Et je crois que c'est par là qu'on va pouvoir fonder la communauté. C'est dans le dialogue, hein, dans l'échange qu'il va y avoir, dans la fraternité, je veux dire, que peut s'apporter quelque chose. Il n'y a pas d'exclus dans la communauté chrétienne. C'est un mot qui est absurde, qui n'a pas de sens. Il y a n'importe qui entre ici, dans ce temple ou dans n'importe quel lieu de culte chrétien, doit être accueilli, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit spirituellement pauvre, spirituellement riche ou intellectuellement, peu importe, je veux dire, quelle que soit la pauvreté ou la richesse que l'on a, nous sommes tous accueillis. Nous sommes tous accueillis dans un dialogue, et c'est ça qui est intéressant. Chacun a sa dignité, finalement, et c'est ça l'expression de la grâce. Chacun est digne, digne d'être un être humain, véritablement, comme ce premier homme qui, il y a 30 ou 40 000 ans, a sans doute aidé un infirme à marcher, hein, comme cette personne qui, anonyme, va, comme je l'ai vu dans la rue, là, une jeune fille qui tirait, vous savez, dans des trucs bancaires, là, dans la rue, tirait de l'argent, puis il y avait un clochard qui faisait la manche à côté, donc elle lui a donné un gros billet, hein, carrément, et le type s'est mis à hurler de joie. Oui. Je veux dire, c'était assez super, assez sympa de voir la manière dont la fille l'a fait, tout à fait librement, légèrement, et la manière dont le gars l'a reçu, d'une sorte, c'est comme si elle avait vu le Père Noël en chair et en os. Je veux dire, voilà. Mais je crois que c'est intéressant, parce que c'est une confiance qu'il y a. Il y a une confiance que Dieu porte en chacun de nous. Je veux dire, d'être le témoin de l'Évangile dans la diaconie, Dieu nous fait confiance pour que nous portions sa parole auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Et ça, ça fait partie aussi de notre dignité de chrétien, là, pour le coup. Et ça aussi, c'est l'expression de la grâce. L'expression de la grâce, c'est qu'on peut recevoir, les hommes reçoivent quelque chose, la dignité de la grâce, c'est qu'on est investi par Dieu pour pouvoir porter cette parole. C'est ça qui peut-être fait notre force, finalement. Ce n'est pas simplement une idée, ce n'est pas simplement la compassion, toutes ces grandes valeurs humaines qui sont assez formidables, mais c'est qu'en plus, nous sommes investis par Dieu pour porter cette parole, hein, et pour la vivre et la partager véritablement. Nous ne sommes pas mieux que les premiers chrétiens. On ne fera pas mieux qu'eux, il ne faut pas croire, je veux dire. Et vos pasteurs ne s'appellent pas Saint Jean, ou Saint Étienne, ou que sais-je encore. Je mets ça exprès, comme si c'était des hommes vraiment à part. Aucun d'entre nous n'est quelqu'un d'indispensable et de formidable. Hein. Nous ne sommes pas mieux que les premiers chrétiens, mais nous sommes vraiment, toutes et tous, dignes d'annoncer l'amour de Dieu au monde et de recevoir autant que nous offrons. Amen.